Mais on n'a pas les mêmes compétences, hein, je peux te le dire. Et
comme tu y vas.
Oh, putain, mais c'est peut-être moi qui ne l'ai pas, les compétences. Mais ouais, alors bah tiens, justement, on estime, avec un autre syndicat hein, de ma boîte, on estime que la direction a monté une liste patronale. Ah ouais, alors là, ils ont rempli tous les. Il y a cadres et puis employés sur la même liste. Hein, c'est les seuls qui ont des cadres, c'est leur, qui vont être élus, les cadres, hein, puisque c'est la direction qui dit. Qui a dit Toi, tu es une fille, tu te mets là. Toi, tu es le garçon, tu te mets là. Et puis, aux autres, vous votez pour ça. Voilà. Ouais, mais... C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et puis, la liste employée, c'est pareil. Hein,
on en revient à ce qu'on disait la semaine dernière avec les gens qui sont là pour faire de la carrière. Pour la petite anecdote, je rebondis sur ce que tu disais, pour créer des listes, c'est compliqué quand tu es intermittent du spectacle, par exemple, pour être sur une liste santé. Et avant, pour la petite anecdote, parce que toi tu parlais des cadres, ce qui est génial, c'est qu'ils ont fait une connerie dans notre convention collective et il y a tout un groupe de gens, je dirais, qui est devenu cadre chez nous, qui n'était pas cadre. Greg est cadre, par exemple, il n'était pas cadre avant, il est cadre d'un coup.
Ah ouais, c'était pour une erreur en fait dactylo en fait sur un imprimé légal. Alors je sais plus.
C'est au niveau de la convention collective.
Effectivement.
Et ouais. Du coup, t'as tout un pan de gens qui sont cadres aujourd'hui et qui peuvent voter pour la CNT du coup. Du coup, là, c'est pas si mal de notre côté.
En tout cas, ce qui est vraiment surprenant dans notre domaine d'activité, qui est l'animation, effectivement, c'est que on réussit à trouver des gens pour les listes. Et on trouve aussi beaucoup de personnes qui votent pour la liste CNT. On pourrait croire que ça pourrait éventuellement faire peur au syndicalisme révolutionnaire, mais du coup, en fait, il y a ça abonde en fait dans notre sens. Il y a quand même des scores qui sont quand même assez élevés. 45%.
La dernière fois, ça s'est fait à 30 voix près. Sachant qu'on était, je sais pas, un truc genre 900 personnes dans l'entreprise. Donc 30 voix près, c'est rien. Et on n'avait pas beaucoup de cadres parce qu'il n'y avait pas encore la convention collective changée à ce moment-là. Là, cette année, on va voir. Notre mandat, Greg et moi, se finit là en fin de mois. Il va y avoir les nouvelles élections. On va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de savoir.
Vous allez pouvoir revenir alors.
Et d'ailleurs, il m'a dit qu'il revenait quand
la semaine prochaine. C'est ça. La semaine prochaine.
On peut.
Non, mais c'est vrai que c'est pas correct. Un débrief post-élection.
Ah bon, je vous envoie le Cédric.
Il est pas libre.
Vous revenez.
Vous êtes obligé de revenir. Mais il pourra pas.
Je suis plus sur la liste.
Et moi, je suis homme de.
On
suis plus sur la liste. Mais oui, on vous donnera les infos. Par contre,
on invente au fur et à mesure, de toute façon. En fait, ils croient quoi. Les auditeurs, ils croient que c'est les hommes qui parlent. Eh non, je suis une femme. Ah oui, voix grave.
Une intelligence artificielle.
Artificielle.
Intelligence, c'est autre chose. Bon, on va bientôt... Et il y a le chat qui a miaulé. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Moi, je l'ai entendu dans le casque. Il a miaulé, ça veut dire qu'on arrive à la fin de l'émission. Avant de lancer le générique, je remercie Vincent, Greg. Et Eric, je te remercie pas. T'es encore arrivé en retard. Merci, Bénédicte, d'avoir fait la technique. Mais avant tout ça, une réunion publique contre le Service National Universel, le SNU, là, se tiendra le 18 novembre 2023, de 14h30 à 17h30 à la Bourse du Travail, dans la grande salle Croisat, aux 3 rues du Château d'Eau, à Paris, dans le 10e, avec table d'infos, débat, outils, perspectives d'action. C'est organisé par qui ? Des collectifs, non, SNU, région parisienne.
C'est ça,
non. Voilà. Bon. Il n'y a pas de.
Collectif anti-SNU,
Voilà.
SNU.
Bon, on vous invite à y aller. C'est le 18 novembre, c'est juste après le 11 novembre.
oui, c'est universel, c'est prétentieux quand même. C'est macronien.
Et on avait arrêté le service militaire. Bon, non, on fait le SNU. Pour les garçons et les filles. Hein ?
Un truc que j'ai appris là, à propos du SNU, c'est que si tu fais le SNU, tu gagnes des points après pour Parcoursup pour pouvoir choper une université sympa. C'est fou. Ça se mord la queue.
Classification chinoise pour les bons citoyens, un truc comme ça.
Ah ouais, voilà, il y a du point social, ouais, c'est ça. Ouais.
Ouais, c'est intéressant. En tout cas, les militaires reviennent par la petite porte.
En ce moment, c'est un peu la mode d'avoir des militaires. On en parle pas mal des militaires, que ce soit en Ukraine, la bande de Gaza, des trucs. On voit que ça peut peut-être développer des vocations. Je ne sais pas.
Pas des bonnes. Ah oui, il y a les pubs, il y a plein de trucs dans la rue.
Exactement.
On a intérêt de faire.
Viens faire un meeting pour faire changer des choses, etc.
Voilà. Samedi 18 novembre. 14h30, 17h30, à la Bourse du Travail, 3 rue du Château d'Eau, dans le 10e, voilà.
Eh ben oui, c'est important.
Ça. Voilà, CNT, le CNT vous le conseille.
Les intermittents. Il y aura aussi bientôt normalement des mouvements intermittents.
Ah oui, il y en a tout le temps.
Alors, j'ai pas les dates, malheureusement, mais je crois que c'est cette semaine.
Des mouvements intermittents ou des mouvements d'intermittents?
Les deux.
Ouais,
par définition.
Parce que, nos amis. Les différentes chambres veulent réformer un peu le statut intermittent encore.
Ouais, ils veulent juste gratter 15%, tranquille, sur l'assurance chômage.
Bon, notre technicienne va nous mettre le générique de fin. Elle n'écoute plus, là. Et avec Jean-Manuel d'Emus s'amuse. Venez-nous le générique de fin, et puis je remercie encore Greg, Vincent, Eric, Bénédicte, et chers les auditeurs, les auditrices. Et à dans 15 jours, avec Greg et Vincent.
Ça y est, la pression, elle revient.
Nous réalisons l'idéal libertaire.
Car moi, je veux.
C'est que vous, partout,
vous alliez le faire gagner,
parce que c'est notre projet.
Vive
la révolution.
Je goûte à maintes et maintes fois un vin amer où des garces aux lèvres peintes ont torché leur bouche d'enfer. Et voici mon âme plus grise, des mêmes souillures, hélas, que le plastron de ma chemise, gris, rose et lilas. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Au fond du cuvier où l'on sème, parmi l'eau, la cendre du four, que tout mon linge de bohème repose durant tout un jour, et qu'enfin mon âme pareille à ce déballage attristant, parmi ton âme, ô bonne vieille, repose un instant. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Comme le linge confie sa honte à la douceur de l'eau, quand je t'aurais compté ma vie, malheureuse d'affreux salaud. Ainsi qu'on rince à la fontaine, le linge au sortir du cuvier mère, arrose mon âme en peine d'un peu de pitié. Et lorsque tu viendras étendre le linge d'iris parfumé, tout blanc parmi la blancheur tendre de la haie où fleurit le mai, je veux voir mon âme encore pure, en dépit de son long sommeil, dans la douleur et dans l'ordure, revivre au soleil. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment.
Ce que je vois, mes pellicules sont les pages quadrillées d'un bloc Rodia, les paysages sur des diapos, c'est du plastique sur la beauté. J'aime entourer de mes mots ce que mes yeux ont regardé. Pas de portrait, pas de gros plan, pas de format mat tout brillant. Juste un regard, un sentiment qui laisse sa place au suivant. Il est rare que l'on se souvienne, dans le cadre blanc d'un cliché, ô combien la lune était pleine, et comme le vent pouvait souffler. Plus de photos pour les voyages, mais des chansons.
Les muses s'amusent. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Et donc, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de maître, et meilleur encore, il n'y a pas de publicité. Ce sont Les Muses s'amusent, je suis Nestor Potkin, et à la technique, aux joies, au bonheur, j'ai ce soir Nicolas. Qui, je l'espère, me posera des questions, fera des commentaires. En tout cas, comme je le dis, je l'espère. De quoi allons-nous parler ? De deux livres qui m'ont surpris l'un et l'autre, parce que ce sont des livres dont le contenu est à chaque fois extrêmement inhabituel, inattendu. Le premier livre dont on parlera, c'est un livre sur le Japon. Alors, je voudrais pas ramener ma fraise, mais j'ai commis un livre moi-même sur le Japon, qui s'appelle « Le Japon mal rasé, voyage chez les anarchistes, les Huiltas, les Burakumin, les Coréens du Nord, etc. » C'était un livre que j'avais écrit parce que, dans les années 80, certaines et certains s'en souviendront, le Japon était présenté comme un pays totalement harmonieux, où tout le monde s'aimait bien et où tout fonctionnait sans problème. Bien entendu, c'était une image totalement fausse. C'était une image totalement fausse pour, déjà, le Japon moderne, d'après l'ère Meiji. Mais, attendez, j'ai juste essayé de demander à Nicolas de fermer la porte ou de dire à nos chers amis de faire moins de bruit. Mais avant même Meiji, eh bien, il y avait déjà, bien entendu, des problèmes. Or, la vision que l'on a du Japon d'avant l'ère Meiji, c'est que les deux siècles précédant l'ère Meiji, donc en gros les années 1600 et 1700, enfin 1600 et, oui, 1600 et 1700 en très gros, étaient des années de grand calme social, puisque du point de vue politique, c'était pas compliqué, c'était sous l'autorité du shogunat Tokugawa. Mais bien entendu, dès qu'on nous dit qu'il n'y a strictement aucun problème dans un pays, il faut se méfier, c'est tout simplement qu'on n'a pas de source sur ces problèmes. Alors, le premier livre dont nous allons parler ce soir, c'est un livre qui m'a totalement surpris. Il s'appelle, alors il n'a pas été traduit en français, c'est un livre d'un monsieur appelé Katsu Kokichi, et ça s'appelle Musui's Story, l'histoire de Musui, The Autobiography of a Tokugawa Samurai, l'autobiographie d'un samouraï Tokugawa. Alors, vous allez me dire, l'autobiographie d'un samouraï, qu'est-ce que ça a de surprenant ? Ouh, c'est très surprenant. Parce que le dit samouraï en question, tout simplement, c'est un petit merdeux. Je m'explique. C'est un petit criminel. C'est un boss de quartier. C'est un mini-mafioso indépendant. C'est un souteneur. C'est un escroc. C'est quelqu'un qui est absolument incapable d'élever le seul enfant qu'il a. C'est quelqu'un qui va quitter sa femme, qui va revenir, puis qui va repartir. C'est quelqu'un de franchement désagréable. Alors déjà, qu'on ait tout simplement un document sur une telle personne pendant l'époque du shogunat Tokugawa qui faisait très très attention à son, ce qu'on appellerait aujourd'hui son image, c'est déjà extrêmement surprenant. Qu'en plus ce document soit une autobiographie, alors là c'est encore plus surprenant, puisque, bien entendu, dans le Japon de cette époque-là, l'autobiographie, la considération de sa propre existence, c'était plutôt mal vu. On a effectivement quelques documents autobiographiques, en particulier, par exemple, de Sei Shonagon, plus Basho, le poète de Haïku, mais c'était à chaque fois des autobiographies très, très codifiées, et surtout des autobiographies de personnages positif, ou en tout cas qui se présente comme tel. Et là, l'autobiographie d'un brigand, et d'un brigand minable, pas du tout un Robin des Bois, non, quelqu'un franchement simplement, quelqu'un que vous détesteriez avoir dans votre quartier, un racketteur, un souteneur, un escroc, un menteur, c'est absolument stupéfiant que ce livre ait pu exister. Alors il a d'abord été publié en feuilleton dans un journal juste après l'ère Meiji, et ensuite les textes ont été rassemblés en un livre. Alors ils ont été traduits en anglais. Malheureusement, la traduction n'est franchement pas terrible pour une raison très simple. Le japonais est une langue qui, du point de vue des indications de la politesse, est monstrueusement compliquée. Pour un même mot, vous pouvez parfois avoir jusqu'à 10 versions différentes selon la personne à laquelle vous parlez et selon qui vous êtes par rapport à cette personne à qui vous parlez. Or, la traductrice, une dame appelée, ou le traducteur, je ne sais pas très bien, non, Craig, ça doit être plutôt un traducteur, Craig Teruko, a décidé de lisser l'anglais, de présenter un anglais, exactement un américain extrêmement neutre, et c'est très dommage parce qu'on n'arrive pas à savoir si le texte original était un texte qui, dans les yeux des Japonais, serait un texte vulgaire, et c'est très facile pour les Japonais de devenir vulgaire, parce qu'il suffit de se tromper, ne serait-ce que très légèrement, dans les formules de politesse pour que les Japonais ressentent ça comme extrêmement vulgaire, ou bien si c'est un texte qui était, on va dire, normal. On peut aussi se poser la question, et en tout cas, moi, je me la pose, pourquoi diable est-ce que ce texte a été écrit ? Est-ce qu'il s'agit... Oui, Nicolas ?
Alors, peut-être une petite question. Est-ce que tu peux nous préciser les dates un peu exactes de ce texte et aussi peut-être dire un petit peu ce qu'était le shogunat, puis le Meiji ?
Alors, les dates. Le texte a été terminé en 1843. Il a été publié en feuilleton dans les années 1899-1900, puis il a donc été rassemblé en un livre, et la traduction dont je parle a été publiée en 1988. Alors, ce qui explique un petit peu pourquoi moi, dans mon bouquin, j'en parle absolument pas, parce que moi, mon voyage au Japon, c'est en 1986, et évidemment, avec une parfaite arrogance, je pensais que j'avais fait le tour des sources dont j'avais besoin, donc j'ai pas regardé plus loin, et malheureusement, ce livre m'est complètement passé à côté. Alors, pour ce qui est du shogunat et Meiji, alors, l'ère Meiji, j'ai un peu oublié la date exacte, je sais plus si 1850 et des poussières ou 1860, enfin, c'est dans, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout simplement, le Japon qui ne refusait tout contact avec les étrangers, sauf tous les deux ans l'arrivée d'un navire de commerçants hollandais, eh bien, les Américains veulent imposer le libre-échange. On sait ce que ça veut dire, le libre-échange chez les Américains. C'est-à-dire, vous achetez nos marchandises de façon à ce que nous gagnions beaucoup d'argent. Et comme les Japonais veulent pas, eh ben, c'est pas compliqué. ils envoient des bateaux à vapeur avec des canons bien modernes dans la baie de Tokyo, et ils disent, écoutez, vous avez le choix, on vous fait la guerre, ou bien on vous fait pas la guerre, mais on fait du commerce. Évidemment, les Japonais ont dit, bon, bah, écoutez, on va faire du commerce. Et c'est à ce moment-là que cette humiliation a coûté le pouvoir, je simplifie l'histoire, au shogunat, dont je vais expliquer ce que c'est, et la personne qui a pris le pouvoir, c'est un empereur qui a décidé que l'ère dans laquelle il vivait, et au Japon, c'est le règne des empereurs qui donne les noms des années, eh bien, ce serait l'ère Meiji. Et qu'est-ce que c'était que le shogunat? Eh ben, le meilleur exemple pour des Français, c'est la différence, juste avant Charlemagne, avec Pépin le Bref, entre le roi de France, qui règne mais ne gouverne pas, et le maire du palais, qui a le pouvoir effectif. Donc au Japon, l'empereur, pendant des siècles, était censé être l'autorité suprême, mais en réalité, la totalité du pouvoir politique était détenu par une espèce de premier ministre qu'on va appeler le shogun. Alors shogun, c'est un très vieux titre, mais l'histoire du Japon a été au moins aussi compliquée que l'histoire de France. Et pendant les périodes dans lesquelles nous-mêmes en France, ça se passe pas très bien, par exemple avec les guerres de religion, au Japon, c'est pareil, il y a des guerres constantes entre les grands féodaux, et finalement ça va être une dynastie de shoguns qui va réussir à imposer son hégémonie. Cette dynastie s'appelle la dynastie des Tokugawa, et en gros à partir des années, alors à nouveau hein, les dates, faut les prendre à 20 ans près, en gros à partir de 1650 si je me souviens bien, jusqu'à l'ère Meiji, c'est-à-dire en gros à nouveau 1850-1860, me demandez pas la date plus précise, eh bien, du point de vue politique, on va dire que la vie s'arrête sous le Japon, en tout cas la vie politique ostensible, explicite, évidente, et le pouvoir reste aux mains de la même dynastie. Et donc les Américains vont modifier tout ça. Donc on a cru, en particulier beaucoup d'Occidentaux, on avait l'impression que pendant ces 200 ans, eh bien, la société japonaise est immobile. Non seulement elle est immobile, mais elle est censée être parfaitement organisée, contrôlée. Les shoguns contrôlent les grands daimyo, c'est-à-dire les grands féodaux, on va dire comme en France des ducs ou des marquis. Et puis les dix ducs et marquis contrôlent tout le monde. Oui, mais non. Ce petit bouquin, mal écrit, mal conçu, d'une espèce de... À nouveau, excusez-moi le mot, mais c'est vraiment l'impression qu'on a après ce bouquin d'un petit merdeux, prouve que dans la vie des gens normaux, c'était beaucoup moins contrôlé que ça. Si ce fils de samouraï, plus exactement ce samouraï, alors il faut expliquer un petit peu ce qui lui arrive à ce samouraï, donc il est bien un fils de petit samouraï, à nouveau en termes français, ça aurait été l'équivalent d'une famille de chevaliers ou de petits barons de campagne, vraiment le degré le plus bas de la noblesse. Et puis, il y a une autre famille à côté, et alors cette autre famille, elle est bien embêtée parce qu'elle n'a pas de fils. Donc le nom risque de disparaître. Et donc, il se passait ça très souvent au Japon, que les familles qui n'avaient que des filles adoptaient un garçon d'une caste à peu près équivalente dans la hiérarchie, et le garçon prenait le nom de la famille pour que le nom continue. Donc c'est exactement ce qui arrive à notre héros. Et c'est la raison pour laquelle le petit Kokichi, qui était né Otani Kokichi, eh bien, il devient Katsu Kokichi, donc il adopte un autre nom de famille. Alors évidemment, ça veut dire qu'à 7 ans, il quitte son vrai papa, sa vraie maman, et il part dans une autre famille. Et incidemment, c'est pour épouser une jeune fille, il a 7 ans, bon, c'est pas grave. Et vous allez me dire, mais attendez, attends Nestor, il y a un problème, c'est que tu nous dis, c'est l'histoire de Musui. Ah, ça c'est le mieux ça. Sur la fin, donc après cette vie de petit brigand de quartier, de petit merdeux de quartier, visiblement, il a envie de s'acheter une conduite. Alors il fait quelque chose qui était tout à fait faisable au Japon, il devient prêtre Shinto. Il devient prêtre bouddhiste. Ah oui, mais alors c'est très compliqué parce que il y a des prêtres bouddhistes, je vais pas dire laïcs, mais hors temple. Me demande pas. Il y a le pauvre Nicolas, il me regarde en me disant, attends, là, Jean-Pierre, je comprends plus rien. Tu me dis que c'est des prêtres et en même temps, ils sont pas attachés à des temples.
Je suis atterré.
Oui, tu es intéressé, tu as bien raison. En fait, c'était précisément une manière pour tout un tas de vieux Japonais un peu inquiets de ce qui allait se passer après leur mort, d'essayer de s'acheter une conduite en adoptant plus ou moins la tenue à peu près et le titre de vaguement prêtre bouddhiste, sans en gros en adopter beaucoup plus de choses, en particulier la chasteté, on oublie. Et donc, on prenait à ce moment-là un nouveau nom, et le nom clérical de notre Katsuko Kichi, eh bien, c'est Musui, et c'est pour ça que le livre s'appelle L'histoire de Musui. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de ce Musui? Donc déjà, à 7 ans, il est donné à une autre famille qu'il adopte, et l'une des raisons pour lesquelles il est donné à une autre famille, c'est que déjà à 7 ans, il est insupportable. Il est très... Alors, les petits enfants japonais sont extrêmement libres, sont extrêmement bruyants, puis tout d'un coup, justement, vers 6 ou 7 ans, c'est un peu comme les enfants scandinaves, clac ! Tout d'un coup, il y a le poids social qui leur tombe dessus, et ils se changent dans les bons citoyens qu'on connaît. Lui, non. Lui, pas du tout. Et il n'a pas envie d'aller en particulier à l'école ou de suivre des cours particuliers. Et ça va même faire en sorte qu'à 14 ans, il va fuguer pendant longtemps. Bien entendu, cette fugue, pour un gamin de 13 ou 14 ans, parce qu'on dit 14, mais en fait c'était 13 selon nos calculs à nous, évidemment, ça se passe très mal. Il a de la chance de ne pas se faire violer. Après tout, on n'en sait rien, il ne le dit pas. Après, une chose est sûre, c'est qu'il est obligé de mendier, il a faim. Donc il revient dans cette famille adoptive. Son épouse ne lui plaît pas du tout, donc dès qu'il peut, il va voir les prostituées du Yoshiwara, le quartier du plaisir, et il vole absolument tout ce qu'il peut. Bien entendu, comme il est samouraï, eh bien, il essaye d'obtenir un poste de fonctionnaire parce que le shogunat avait le même problème que Louis XIV avec sa noblesse, qu'en faire? Alors Louis XIV avait résolu, entre guillemets, le problème en ayant une cour énorme à Versailles. Le shogunat, quand même, fait un peu plus confiance aux samouraïs et compte sur les samouraïs pour tenir en gros les postes de petits et moyens fonctionnaires. Mais comme lui, on sait que c'est un abominable, on lui refuse un job. Alors il a quand même un moyen de survie. Puisqu'il est samouraï, il reçoit 41 koku. Alors le koku, c'est en gros une unité de mesure de riz que les fermiers des terrains qui appartiennent aux samouraïs doivent payer aux 10 samouraïs. Mais 41 koku, en gros, ça ne pouvait pas servir à nourrir une famille de 5 ou 6 personnes. Nicolas, tu as une question, je t'écoute.
Oui, c'est-à-dire que là, je t'entends décrire cet enfant, ce jeune homme. Bon, c'est un peu un sale gosse, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal
pour l'instant, ce n'est pas encore horrible. Bon, déjà, il fugue. Alors, ce qui est dans le Japon de l'époque est déjà mais totalement ahurissant. Alors, en plus, un fils de samouraï, c'est encore plus ahurissant. Et il commence à, déjà, comme gamin, il vole, des petits vols par-ci par-là, mais il vole, ce qui, à nouveau, est totalement inimaginable. Et puis, il va nous raconter pendant tout son bouquin qu'il devient une espèce de courtier en épée. Donc, quand même, en armes. Alors, est-ce que c'était un courtier très honnête? On n'en sait rien. Il nous informe également que, c'est curieux, il devient usurier, il prête de l'argent. Alors, oui, mais il prête de l'argent, mais il l'a eu comment, cet argent? Alors, pareil, dans son livre, il ne nous dit pas vraiment, il ne dit pas vraiment comment il obtient tout cet argent. Toujours est-il qu'au bout d'un moment, il en a assez, il quitte donc la fameuse épouse, à laquelle il avait quand même fait un fils, hein, comme ça, de temps en temps, et il fugue. Il fugue, il va même monter des loteries. Tu te dis, attends, le gars, il est apparemment, il fugue, et il arrive à monter des loteries clandestines. Visiblement, il ne nous raconte pas tout. Lesquelles loteries semblent également relativement peu honnêtes. Et en revanche, il devient un très bon escrimeur. Alors, là, c'est pareil, on peut se poser la question, est-ce qu'il était si bon escrimeur ou est-ce que tout simplement il n'hésitait pas à tuer quand il avait des combats? En tout cas, il nous affirme que, un, il est un très bon escrimeur, donc ça lui permet d'augmenter ses revenus en tant que trafiquant d'épées, et il va même donner des leçons d'escrime. Alors évidemment, ça, on connaît, les fanatiques d'arts martiaux connaissent l'astuce, le prof d'art martial, que ce soit le judo, le kendo, etc., défie les autres, et notre Musui se vante évidemment de gagner tous les combats et de devenir très craint. Et pareil, il explique que quand même dans son quartier, on le respecte beaucoup, et à nouveau, il prête de l'argent. Non, ça sonne un peu sicilien sur les bords. Et puis, il va se passer quelque chose d'assez amusant. Il va avoir quatre enfants finalement avec sa femme. Ça, c'est pas spécialement amusant. Mais ce qui va lui arriver, c'est qu'à un moment, son papa va être tellement furieux, son papa adoptif, hein, va être tellement furieux de la honte que ce garçon apporte à la famille, que un jour où il revient à la maison adoptive familiale, il a 21 ans, eh bien, le père de Musui le flanque en cage. Et dans le livre, il n'y a pas de doute, le traducteur utilise le mot plusieurs fois, on parle bien d'une cage dans la maison. Alors, comme il n'a rien à faire dans la cage, il va donc en profiter pour enfin apprendre à lire et à écrire. Alors ça, à nouveau, c'est totalement stupéfiant. Les samouraïs étaient très fiers de leur maîtrise de la calligraphie, parce que de la calligraphie et l'escrime, du point de vue de la maîtrise corporelle, ça fait quand même un petit peu appel aux mêmes compétences. Et normalement, un samouraï était quelqu'un qui était capable d'écrire, de calligraphier, de peindre, alors que lui, notre Katsuko Kichi, il en était complètement incapable. Au bout de 3 ans, finalement, il va pouvoir ressortir, non sans qu'il ait eu auparavant, par ailleurs, il y a tout un machin où dans l'une de ses multiples fugues, tout d'un coup, il tombe sur un rocher et manque de bol, c'est ses testicules qui prennent le choc, et le malheureux aura une infection des testicules pendant des années et des années. Et puis, une fois qu'il est libéré de la cage, on espère qu'il va s'améliorer. Pas du tout, ça va de pire en pire. Et donc, son père adoptif le force à renoncer à son autorité parentale. À nouveau, on est en plein Japon du shogunat. Nous, maintenant, ça nous semblerait une histoire parfaitement banale, mais pour l'époque, c'est absolument stupéfiant. Et donc, notre bon Katsuko Kichi émancipe son fils de juste 15 ans. Alors, il nous raconte qu'au même moment, il y avait un propriétaire chez lequel il vivait, et il va aider ce propriétaire à se faire payer ses dettes. On est en pleine mafia sicilienne. Et il y a encore énormément de petites aventures minables, de petits brigands minables, qu'il nous raconte avec une évidente fierté, même si bien entendu il dit « Oh, qu'est-ce que c'était pas bien ce que je faisais », on sent bien qu'en fait il est tout content de nous informer de ceci. Alors, ça veut dire qu'il va il va émanciper son fils de 15 ans quand lui-même en aura 37, et donc officiellement il prend sa retraite à l'âge de 37 ans. C'est là qu'il change de nom et qu'il devient un prêtre bouddhiste. Et le truc absolument sidérant, c'est que ça ne l'empêche pas une seconde de continuer son métier d'usurier, son métier de trafiquant, tout ça, il continue quand même. Et tout d'un coup, sans vraiment qu'on sache pourquoi, il décide d'écrire ce texte. Est-ce que quelqu'un a fait pression sur lui? Est-ce qu'il voulait avoir le prestige d'avoir écrit ce texte? On n'en sait rien. En tout cas, le texte, lui, est encore là.
Et tu penses que c'est véridique, qu'il fabule ou...
Alors, ce qui est absolument évident, c'est qu'il ne peut pas nous avoir tout dit. c'est clair et net, il y a des zones d'ombre parfaitement évidentes, et mon opinion est qu'il a certainement fait pire que ce qu'il nous dit. En revanche, est-ce qu'il a été aussi efficace, par exemple, l'histoire de « Ah ouais, mais moi j'étais finalement le patron de mon quartier », est-ce que là c'est de la vantardise, ou est-ce que c'est simplement qu'il a essayé mais qu'il n'y est pas arrivé, ou qu'il a essayé, qu'il a cru lui-même qu'il y est arrivé, mais finalement pas tant que ça. On aurait le même problème avec un petit brigand, un petit criminel minable en France, en Italie, où on veut, qui nous raconterait l'histoire de sa vie. À peu près par définition, on se dirait, ça ne peut pas être totalement véridique. En revanche, ce qui ne laisse absolument aucun doute, c'est cet aveu par un noble de l'époque du shogunat japonais, du moment où le Japon semble être le plus stable et le plus, entre guillemets, sérieux et contrôlé, cette preuve qu'il y avait tout un milieu, exactement dans le sens français du milieu maintenant, donc toute une zone criminelle dans laquelle des gens comme des samouraïs, donc a priori des privilégiés de la société japonaise, pouvaient immédiatement s'intégrer. Et ça, en fait, les épisodes exacts de la vie de Katsuo Goichi, on s'en fiche. Aucun n'est vraiment important. En revanche, à nouveau, ce qu'il nous permet de déduire de la réalité de la société japonaise, ça, c'est vraiment intéressant. Et alors, il reste quand même ceci, que il ne peut quand même pas avoir écrit quelque chose de totalement, totalement hors de la réalité, parce que paradoxalement, le dit fils, qu'il va émanciper à 15 ans, deviendra à l'époque Meiji un officiel relativement important. Il va devenir un haut fonctionnaire. Donc malgré tout, la famille, quand ça, ça a été publié, alors, par exemple, est-ce que c'est la famille qui a exigé ça pour essayer de laver la honte d'avoir un affreux comme ça dans cette famille, c'est relativement probable. Donc c'est pour ça que, personnellement, j'ai un peu tendance à penser que la majeure partie de ce qui est dit dans cette autobiographie est plus ou moins correcte.
Est-ce que tu peux nous rappeler le titre et l'éditeur ?
Alors, c'était donc, nous venons de parler d'un livre d'un japonais appelé Katsuo Kokichi, et dont le titre en anglais, ça n'a pas été traduit en français, s'appelle Musui's Story, The Autobiography of a Tokugawa Samurai, et ça a été publié par, manque de chance, attends, j'ai l'étiquette au-dessus, c'est le University of Arizona Press.
Très bien, une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Et des mieux nantis, des moins vieux. J'ai beaucoup moins d'un tout cœur pour m'imposer à tes yeux. Et puis bien sûr, il y a ceux qui d'un bon mot te font rire. Pour être franc, je dois dire que je les envie un peu. Cette nuit, au pied de ton lit, je jouerai pour toi un air à deux voix, et tu te fais aux chansons, chanter sous ton balcon, celle d'un de ton lit. Je jouerai pour toi un air de voix. pluie au pied de ton lit. Je jouerai pour toi un air de voix.
C'était Sylvain Vanneau, un air à deux voix, et nous retrouvons Jean-Manuel en studio. Vous êtes bien sur Radio Liberté à 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité.
Magnifique, merci beaucoup. Donc nous sommes toujours dans Les Muses s'amusent, avec Nicolas à la technique. Nous venons de parler de ce livre étonnant et instructif, Musui Story, The Autobiography of a Tokugawa Samurai. Mais maintenant, nous passons au deuxième livre tout à fait étonnant de cette émission. Alors, quel est ce livre? C'est un livre d'un auteur polonais. Alors, je présume que je vais prononcer son nom de manière absolument scandaleuse. Enfin, moi, je vois Marius, SZ, Wilk, ou Wilk. Bon. Et le titre...
Serge nous a dit qu'il fallait dire Mariusz.
Mariusz. Donc, on va dire Mariusz... Wilk ou
Vic. Vic.
Vic. Ah ben c'est encore mieux. Mariusz Wilk. Et le titre s'appelle Le journal d'un loup et ça a été publié aux éditions Libretto. Et de quoi parle ce journal? C'est absolument pas le journal d'un loup. D'ailleurs, le titre en polonais apparemment serait Le journal d'un loup blanc. Et donc un loup du Nord. Eh bien, en 1991, M. Mariusz Wilk, qui est un journaliste polonais fort connu, il a cette étrange idée de venir passer 6 ans sur les îles Solovki. Et là, évidemment, j'entends tout d'un coup un grand cri. Mais c'est quoi les îles Solovki? Alors, les îles Solovki, c'est un archipel, hein, ça vous l'aviez deviné, au nord-ouest de la Russie, dans la mer Blanche. C'est-à-dire, on est vraiment, vraiment au nord. Superficie totale 347 km². En 2002, il y avait 968 habitants. En 2023, il doit y en avoir un petit peu plus, mais pas tellement plus. Alors, il y a 6 îles. Et en fait, ces îles sont célèbres dans toute la Russie. Pourquoi donc? Plein de raisons. Historiquement parlant, tout d'abord, il y a un grand monastère. Alors ce monastère qui est démarré en 1429, et il se trouve que ce monastère, comme évidemment il s'est passé à l'ouest avec les monastères catholiques, eh bien ce monastère devient très riche. Donc petit à petit, à mesure que la Russie s'unifie sous la tutelle des princes de la Moscovie, eh bien, ce monastère devient non seulement un monastère, mais en plus une forteresse qui permet de contrôler la frontière nord de la Russie. Donc, il y avait, à côté du monastère, il y avait une garnison, il y avait des canons, on va se battre contre les chevaliers livoniens, puis on va se battre et les vaincre contre les Suédois. Et comme évidemment, le monastère travaille, ou plus exactement, les servants du monastère travaillent, on fait de la pêche, on fait de la chasse pour pouvoir vendre des fourrures, on va même travailler les métaux, on va avoir une mine de mica, on va cultiver des coquillages et on va travailler la nacre que l'on en tire, on fait même de la salaison, puisqu'en 1660, on va avoir 54 saloirs et fumoirs à poissons. Bon, tout ça, c'est très bien. Donc, en gros, dans les années 1650, il y a à peu près 350 moines et en gros 700 employés, on appelle ça des frères convers, 700 employés du monastère. Savoir ce qui va se passer, c'est que, comme vous le savez, eh bien, à cette époque-là, en Russie, il va y avoir un schisme terrible en pleine église orthodoxe. Alors c'est un schisme dont vous savez peut-être qu'il était totalement idiot. Par exemple, l'un des grands points de haine entre les deux camps, c'était quand on se signe, quand on fait le signe de la croix, est-ce qu'on le fait avec 3 doigts ou avec 2 doigts? Oui, alors il y a Nicolas qui est en train d'essayer de compter ses propres doigts. Non, 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 Nicolas, là c'était 4 doigts que tu comptais. Non, là c'était 5.
Le signe de croix, c'est quelque chose d'assez compliqué à faire.
En plus, hein, le signe de croix, c'est très compliqué à faire.
Il faut recevoir une bonne éducation pour ça.
Et visiblement, donc il va se déclencher quasiment une guerre civile. La guerre civile va très très mal se terminer pour les partisans du statu quo, qu'on va appeler les partisans de la vieille foi, des vieux croyants. Et ce qui va se passer, c'est que notre monastère des îles Solovki devient, pour la première fois, une prison. Et en particulier, on va y envoyer l'un des chefs des vieux croyants. On va l'emprisonner dans un trou dans le mur d'enceinte de la forteresse. Réellement un trou. Et d'ailleurs, apparemment, en russe, ça s'appelle la crevasse d'Avakum. Bon, en même temps, bien entendu, on s'assure que le monastère devient un lieu de propagande intense pour la, entre guillemets, nouvelle foi, donc l'Église orthodoxe, entre guillemets, réformée, on dirait. Et le monastère va donc être un lieu intellectuellement actif. Alors évidemment, si on peut appeler intellectuellement pour les imbécilités théologiques orthodoxes, glissons. Bien entendu, qu'est-ce qui se passe ensuite? Une petite révolution en 1917. Alors, en 1917, les soviétiques ils ont plein d'autres problèmes à résoudre, mais à partir de 1920, ils se rendent compte que, bon, maintenant, ça y est, ils peuvent s'occuper de ce genre d'institution. Et évidemment, les monastères orthodoxes, ça ne leur plaît pas du tout. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont forcer les moines à se séculariser, à renoncer à la règle monastique, ce qui ne voulait pas dire que leur vie allait beaucoup s'améliorer, parce que tout d'un coup, deux moines, ils deviennent prisonniers. Vous allez me dire, il n'y a pas des masses de différence. Si, quand même, à mon avis, il devait quand même y en avoir. Donc, on va les obliger à prendre part à des travaux de force, et on commence à envoyer les premiers prisonniers, bien entendu, d'abord des prisonniers d'opinion, et puis des prisonniers, on va dire, de statut, des nobles, des bourgeois, des intellectuels non communistes, des ex-officiers tsaristes, des socio-révolutionnaires, donc tout simplement des rivaux des bolcheviques dans la révolution, des anarchistes, hein, bien entendu, les anarchistes, c'est toujours bon de les envoyer dans les camps, des mencheviques, donc à nouveau, je rappelle que les bolcheviques, c'est tout simplement, ça veut dire bolchoï, ça veut dire grand en russe, et mencheviques, si j'ai bien compris, c'est petit, donc c'est la grande partie la grande faction du parti socialisto ou social-démocrate, je me souviens plus, socialiste révolutionnaire, je me souviens plus. Et c'est en particulier là qu'on va créer l'un des premiers camps du Sloan. Pardon. Oui, le Sloan. Alors, me demandez pas le mot russe précis. La signification de l'acronyme en français, c'est Direction des camps du Nord à destination spéciale. Alors, on me signale qu'il y a quelque chose d'un petit peu amusant avec cet acronyme Sloan, parce que Sloan, en russe, ça veut dire éléphant. Pauvres éléphants qui se retrouvent les mascottes du goulag russe. Jusque vers 1926-1928, eh bien, ce camp va être un camp principalement réservé aux détenus politiques, et curieusement, va y avoir une certaine, alors quand on dit liberté de pensée, c'est beaucoup dire, mais enfin, il y a une bibliothèque relativement riche, les déportés peuvent envoyer du courrier, ils peuvent recevoir en particulier la presse, évidemment c'est la presse communiste, mais enfin, c'est quand même la presse. Petite chose à la fois drôle et pas drôle, l'un des premiers chefs du camp s'appelait Fyodor Eichmann. Ah oui, non, exactement le même nom que l'affreux Eichmann des nazis. Et puis, Staline renforce tout d'un coup son pouvoir vers 1917, et là, il va se passer quelque chose de sidérant. L'un des anciens déportés devient chef du camp. On n'ose pas imaginer le nombre de trahisons et de dégueulasseries que le gars a dû faire. Il s'appelle Naftali Frenkel. Et l'une des raisons pour lesquelles il devient le chef du camp, c'est qu'il a une idée géniale. Il dit, mais c'est bien gentil d'avoir des camps de prisonniers, mais au lieu que ça coûte, il faut que ça rapporte. Ah, fait Staline, quelle excellente idée. Et donc, tout simplement, il va inventer un très grand nombre des caractéristiques du goulag, en particulier l'une des plus ignobles, c'est-à-dire que si vous étiez capable de ce qu'on appelait un travail lourd, vous imaginez ce que ça pouvait signifier, vous touchiez 800 grammes de pain et 80 grammes de viande, si vous n'étiez capable que d'un travail léger, 500 grammes de pain et 40 grammes de viande, et si enfin vous étiez un invalide incapable de travail, c'était 400 grammes de pain et 40 grammes de viande. Et tout simplement, on peut dire que là, c'était une manière de s'assurer que les faibles disparaissaient d'eux-mêmes relativement rapidement, puisqu'ils coûtaient et ne rapportaient rien, et qu'en revanche, ceux qui rapportaient, eh bien, pouvaient continuer. Et donc, le Sloan va être, en gros, le modèle du goulag. Rappelons que, pas loin du tout, Staline va en particulier créer quelque chose d'absolument horrible, le canal de la mer Blanche à la mer Baltique, sur lequel des dizaines de milliers, voire peut-être des centaines de milliers de prisonniers vont mourir. 1939, le camp est fermé et à la place, on ouvre une école de cadets, donc une espèce de Saint-Cyr soviétique. Et puis, à la chute de l'URSS, que se passe-t-il ? Ben, le Sloan est évidemment, est heureusement fermé, et les lieux sont presque libres. Et c'est à ce moment-là que notre Mariusz Wick vient s'installer en 1991.
Vous venez d'entendre Natacha et Nuit de Prince, un morceau qui s'appelle Staroushka. C'est un traditionnel tzigane russe. Je ne sais pas si on entendait des choses aussi dansantes sur les îles dont Jean-Manuel nous parle, mais...
On va le savoir dans un instant. Alors, incidemment, nous sommes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans publicité, sans goulag et sans camp de concentration. Ouf, quelle merveille. Et les muses s'amusent ce soir. Nous avons parlé tout d'abord d'un livre d'un samouraï japonais d'avant l'ère Meiji. Et nous sommes maintenant en train de parler de l'excellentissime livre de Marius Wilk. Alors, prononcé à la française Marius Wilk. Le journal d'un loup paru chez Libretto et qui nous raconte les 6 ans de résidence de Monsieur Marius Wilk dans les îles Solovki. Alors, j'ai lu énormément de livres de voyage, c'est une forme de littérature que j'aime beaucoup, mais je dois avouer que ce que décrit Marius Wilk, ça, j'ai rarement lu ça dans des livres de voyage. Alors, on va en lire plusieurs extraits. Je vous les juge. Le Kremlin de Solovki. Alors, incidemment, un Kremlin, tout simplement, c'est une forteresse, c'est le quartier général, le palais central, etc. Le Kremlin de Solovki se dresse sur un isthme étroit qui sépare le lac sacré de la mer Blanche. Sa muraille de pierre, d'une verste de long, alors une verste, c'est un peu comme une lieue, enfin, c'est très long, une verste, faite d'énormes rochers couverts de lichens couleur de rouille, ceint l'ensemble architectural qui constitue le monastère, d'une beauté incomparable, en dépit de son délabrement. C'était jadis l'un des plus riches monastères de toute la Russie et la plus puissante forteresse de l'Empire dans le Grand Nord. 2 cathédrales, 5 églises, autant de portes, 7 tours de défense, un clocher, 3 palais, des bâtiments d'habitation et des corps de ferme, un énorme réfectoire, la plus grande salle à pilier unique de toute l'ancienne Russe, de toute l'ancienne Russie, des cloîtres, des passages, des cellules et des cachots. Il suffit de regarder des photos d'avant la Révolution pour comprendre jusqu'où la Russie est allée dans la dévastation de son paysage culturel. Même les arbres ont été coupés à la base. Là où il poussait autrefois des fleurs, il n'y a plus aujourd'hui que de la terre argileuse. À l'époque du camp, du Slon, le monastère était une zone. Des écas, des prisonniers, étaient détenus dans les sanctuaires et au sommet du clocher, la croix avait fait place à une étoile. Le réfectoire avait été transformé en théâtre et dans une des 2 cathédrales, des WC installés à la place de l'autel. Dans l'une des églises était présentée une exposition sur l'athéisme. Après le camp, c'est l'armée qui occupa un temps le Kremlin. Les cloches ont conservé des traces de balles. Ensuite, le monastère fut transféré à l'administration qui en fit un musée. Dans les bâtiments du monastère, elle organisa une exposition, des réserves pour les collections, une auberge pour les touristes, un hôtel pour les travailleurs, un club de jeunes et un magasin de vodka. Des travaux de restauration furent entrepris, l'étoile disparut du clocher, dans la cathédrale les excréments furent grattés. On en profita pour gratter aussi les fresques du XIXe siècle et rendre un peu de son ancienne apparence au sanctuaire. Mais la nuit, dans les cloîtres, les touristes s'amusaient et avec eux l'arpana, la racaille locale, des putains adolescentes et de jeunes truands mineurs. Il y a 5 ans, donc on parle de la fin des années 80, début des années 90, les moines sont revenus à Solovki. Une partie des bâtiments et de la ferme et 2 petites églises leur ont été restituées. Comme ils sont peu nombreux et qu'il faudrait de gros moyens pour entretenir et restaurer le complexe du monastère, ils ne cherchent pas, pour le moment, à obtenir davantage. Le magasin de vodka et le club ont été fermés. Des négociations sont en cours pour que l'hôtel quitte l'enceinte du monastère. La boulangerie installée dans l'église de la Dormition pose, elle aussi, un gros problème car la Shpana, pour sa part, continue à faire la fête l'été dans les galeries, tentant les moines avec de l'eau de vie trafiquée ou des filles de joie. Le père supérieur, Yossif, songe à faire venir un détachement de cosaques pour assurer la protection des moines. Au nord du Kremlin, sur la petite place où se trouve la chapelle de Constantin, une roche commémore les mousses décédées, les mousses des bateaux. C'est le lieu des célébrations annuelles du jour de la victoire, le Dien Pobiedi. Après ces manifestations, les vaches broutent les couronnes mortuaires.
Là, pendant la saison, la musique hurle dans les discothèques à bord des bateaux. Les troupeaux de touristes ivres sont une aubaine pour les filles d'ici et l'occasion de bagarres. Sur le chemin, on voit d'anciens baraquements du camp habité. Après le débarcadère, tout au bord de la mer, un monstrueux entassement de tonneaux. La plage est imbibée de pétrole et d'essence. Au sud du Kremlin, sur une petite éminence qui a d'abord accueilli le cimetière des moines, puis des tombes collectives, s'élève aujourd'hui l'hôpital, construit à l'époque du camp. Les murs, tout décrépits, s'effondrent par pans entiers. Le toit fuit. Les plafonds et les planchers sont pourris. Plus loin, la rue Zaozernaya, la rue du lac, puis la rue des Crocodiles, avec ses 3 magasins, 8 cafés borgnes, le bar Max et un baraquement qui date du Sloan où l'on peut goûter à bas prix, entre une bouteille et 3 dollars, au plaisir grossier du sexe, avec des demoiselles dont l'âge va d'une douzaine d'années, à des siècles. On peut voir le long de la clôture des traces d'évocation de défunts, bouteilles vides, boîtes de conserve rouillées, bancs cassés. De la rue du Lac par une ruelle portant le nom de Florensky, un zec, un prisonnier des Solovki, pop, mais philosophe rationaliste, découvreur d'une méthode permettant d'obtenir de l'agar-agar à partir d'algues. Là, comme à la prison de la Loubianka à Moscou, une pierre commémore la mort des victimes du Sloan. De l'autre côté, sur le bord du lac sacré, parvient le raffut de la vieille centrale diesel électrique. Des fuites de mazout ont brûlé la forêt alentour entièrement. À l'ouest du Kremlin, l'hôtel de Saint-Pétersbourg. Il date de l'époque du monastère et est actuellement le siège de la direction du musée et de la bibliothèque scientifique, laquelle, en 30 ans, a été incapable d'établir un fichier. En bas, tout près du débarcadère de la prospérité, se dressent les ruines de l'hôtel Preobrajensky, qui, jusqu'en 1917, accueillait les riches pèlerins et les hôtes fortunés du monastère. S'y sont ensuite établis l'administration du Sloan et un magasin. Après, il a été cantonné l'unité militaire basée au Solovki. Quand les militaires ont quitté l'archipel, ils ont organisé une grande fête et un feu d'artifice. Et le feu d'artifice a mis le feu au bâtiment. Aujourd'hui, c'est une centrale de chauffage urbain, un endroit louche, où se retrouvent les putes de Solovki dont plus personne ne veut. Tout autour, des tas de mâche-fer fumant. Plus loin, la rue Primorskaya, la rue de la mer. 4 chapelles, l'une d'elles sert de porcherie. Les ruines d'une très ancienne centrale hydraulique, l'unique dogue du monastère, qui se désagrège sous nos yeux. Une maison qu'on appelle Shanghai, l'image même de la misère, de l'alcoolisme et du désespoir.
Хороший мальчик уродился, в цыганочку влюбился. Улетай, дори-дори-дай, улетай, дори-дори-дай, улетай, дори-дори-дай, улетай, дори-дори-дай.
C'était de nouveau Natacha Nuit de Prince, un autre traditionnel russe qui s'appelle Le Bon Gars. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, et en compagnie de Jean-Manuel.
Et de Nicolas à la technique. Alors on va continuer, pour les muses s'amusent, l'analyse et la lecture de l'excellent mais terrifiant livre de Marius Wilk, Le journal d'un loup, paru aux éditions Libretto. Et là, le passage que je vais vous lire, il faut bien se souvenir que c'est un passage qui a été écrit entre 1991 et 1997. Les nuits blanches, sur l'archipel de Solovki, diffusent des lueurs douces dans des tons lilas, allant de violet d'étain aux premières plantes auprès de la rive, à la marante qui s'intensifie au loin sur la ligne d'horizon, où le soleil se noie dans la mer en un clin d'œil. L'eau, le ciel, les nuages et les pierres présentent toutes les nuances de rose. Même la brume et l'écume ont l'air d'une mousse couleur de canneberge. Pendant les nuits blanches, la mer blanche est une mer d'huile, pas un frisson, pas une ride. On dirait un grand miroir obscurci dans lequel se reflèterait l'archipel et les hommes, et où l'on se reflèterait soi. Des hommes sont assis dans leur bateau. Noirs dans le contre-jour, on dirait qu'ils n'existent pas. Ils forment des trouées sombres sur le fond lilas. Ils ont faim et ne bougent pas. Ils attendent le hareng, l'unique source de protéines pour beaucoup de gens d'ici. Et les harengs, eux, aussi affamés par l'hiver, ils les prennent avec des hameçons sans appât. Il leur suffit d'un bout de bois, d'un crin de ligne, de deux morceaux de boîte de conserve imitant des poissons, et de 6 ou 7 hameçons entre eux. Si les harengs se déplacent en banc, vous n'avez pas le temps de les détacher de votre ligne, plusieurs mordent à la fois. Alors le tableau s'anime, les hommes bougent, ils balancent leur canne à tout instant, un hareng scintille à droite, à gauche, partout. Parfois même, des rires se propagent sur l'eau. Les jours, pendant cette période, sont bleus, allant de l'indigo clair au lapis-lazuli, ou transparents, comme le chilo. Alors j'espère que je prononce bien, chilo, chilo, kilo, je ne sais pas. L'alcool dénaturé qu'ils boivent. Sur les arbres, apparaissent de jeunes pousses vertes, duveteuses et douces, comme les bois de velours d'un cerf. De la terre, grasse et détrempée, surgissent des herbes, des insectes et parfois des ossements humains, si l'on creuse un peu plus profond. Le début du mois de juin à Solovki, c'est la saison des jardins. On plante les pommes de terre, on répare les serres, on déroule du fil de fer barbelé sur des piquets, et on ramasse dans la terre les pierres rejetées ici chaque année comme des boutons apparaissant sur l'épiderme. Jadis, à la fin du néolithique, les Saams, les Lapons, construisaient avec ces pierres des labyrinthes. Aujourd'hui, les gens jurent comme des charretiers parce qu'ils se font mal aux mains avec Bliat, putain.
Va se любил, любовь еще быть может в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томил. Я вас любил так искренно, дай вам Бог любимой быть другим. Я вас любила, любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, ту робостью, ту ревностью томи. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим.
Sur Radio Libertaire, dans Les Muses s'amusent, et nous venons d'écouter, j'essaye de mettre un peu de poésie dans ce monde de brut, Pushkin par Natacha et Nuit de Prince. Jean-Manuel, c'est à toi.
Merci. Merci Nicolas. Donc nous sommes toujours dans Les Muses s'amusent, nous continuons à lire des textes du livre stupéfiant de Mariusz Wilk, Mariusz Wilk prononcé à la française, Le journal d'un loup, aux éditions Libretto. Et là, évidemment, pour les textes de la fin, ça va être carrément stupéfiant. Je commence à lire. Parmi les dissidents forçats, il y avait aussi des adeptes de la, entre guillemets, vieille foi, de tendances différentes et des sectaires de tout poil, des chlistes, des castras, des chélapoutes, des prigounes, des biégounes, des pierdounes. Les noms de ces sectes sont très évocateurs. Prigounes, ceux qui sautent, biégounes, ceux qui courent, pierdounes, ceux qui pètent. Les Pierdounes étaient les membres d'une secte fondée par Gavrilov, un moine du mont Athos, qui enseignait que ce que nous mangeons nourrit le diable qui vit en nous. Il recommandait comme moyen de se purifier un paix rituel associé à la prière. Un historien français contemporain, Inger Flom, interprète cela comme un vestige du culte de Perun qui associe les paix à des coups de tonnerre. Et dans ces histoires-là, je reprends la parole, dans ces histoires de sectes, voici à nouveau le texte qui continue. En 1772, dans le village de Bogdanovka, la police inquiète enregistrait 13 moudjiks sans testicules. C'est ainsi que commence l'histoire d'une des sectes les plus étranges de l'histoire, la secte des pigeons blancs, dans laquelle le radicalisme russe trouva sa pleine expression. Elle avait à sa tête le starets Selivanov, dieu et tsar en une seule personne, car confondant mystique et politique, il se faisait passer à la fois pour une incarnation du Seigneur et pour sa majesté Pierre III. Selon Selivanov, la fin du monde était proche et il suffisait de châtrer 144 000 religieux des deux sexes pour que le jugement dernier ait lieu. Le jeu de mots possible en russe, isku plénié, osko plénié, rédemption, castration, rend bien le sens métaphysique de la rédemption du péché originel par les castrats. Selon leurs enseignements, les premiers hommes étaient asexués, c'est-à-dire qu'ils ne possédaient pas d'organes sexuels. Ils disposaient en revanche d'une liberté totale. La seule chose qui leur était interdite, c'était de toucher l'arbre de la connaissance. Pour avoir violé cette interdiction, Dieu les punit lourdement. Des organes sexuels apparurent sur le corps d'Adam et d'Ève, copie de l'arbre de la connaissance. Le tronc donna la verge, les pommes, les seins. Seule une intervention chirurgicale, c'est-à-dire l'ablation des instruments du péché, pouvait racheter l'homme du péché originel. Les opérations étaient faites au fer rouge et avaient différentes appellations. Le baptême du feu, la montée sur un cheval blanc, parfois le sceau, le sceau sur le cachet de cire, avec le cachet sur la cire. On distinguait le petit sceau, l'ablation des testicules pour les hommes et des mamelons pour les femmes, et le sceau impérial, l'ablation de la verge à sa base et celle des seins au ras de l'os. Et le rapport avec les îles Solovki, c'est un fou furieux, certain Joseph Jelensky, qui tout d'un coup devient un membre de cette secte délirante. Je reprends la lecture du livre. Ensuite, il fit lui-même, après avoir subi la petite opération, enfourcher un cheval blanc, entre guillemets, à plusieurs douzaines de Russes, avant de devenir, pour finir, le principal théoricien de la secte. En 1804, il remit entre les mains de Novosiltsov, un intime du tsar, son poslanier, son message, le projet d'un remaniement complet d'une perestroïka de l'Empire russe. C'est un document tout à fait extraordinaire. En voici les grandes lignes. La Russie est le pays élu sur notre église, par notre Église pour amorcer la grande métamorphose qui entraînera la métamorphose du monde entier. Ce changement doit commencer dans l'armée et dans la marine. Tous les chefs d'une unité militaire ou d'un univers se verront adjoindre un prophète castrat, propagateur du verbe, et un moine castrat secret, commentateur du verbe, qui devra décider des opérations de combat, veiller à la discipline et à la morale, et castrer les soldats. Et le livre cite un philologue qui explique que c'est le projet le plus totalitaire que connaissent l'histoire des utopies, car Jelensky ne proposait pas seulement une transformation de tout le système du pouvoir, de l'État et du clergé, il n'avait pas seulement l'intention de commencer la révolution par l'armée et la flotte pour l'étendre ensuite à tous les ministères, les provinces et les villages. Il ne voulait pas simplement instaurer son régime par la méthode la plus dure que nous connaissions, le contrôle personnel des pasteurs de toute la hiérarchie du clergé. Ce n'était pas une nouveauté. D'autres s'y étaient essayés avant lui et d'autres s'y essayèrent après. Non, son projet est le seul qui associe à la politique intérieure et extérieure et à la politique religieuse la politique du corps, sa variante la plus radicale et irréversible, puisque chirurgicale. L'idée de la castration, d'abord des commissaires, puis sur leur contrôle du peuple tout entier, est une utopie qui atteint la limite théorique de toutes les utopies. Personne n'a décodé aussi littéralement le secret de l'utopie comme le polonais Jelensky. Et Marius Wick termine avec ce commentaire absolument délicieux et sur l'un de ces prisonniers des îles Solovki, ce fou furieux prisonnier de l'île des îles Solovki. Le 24 août 1804, Jelensky fut enfermé au monastère pour propagation de l'hérésie des castrats. Mais le Polonais n'en cessa pas pour autant ses castrations. Il organisa même avec la moinesse Paisia tout un centre de castrats dans les cachots et châtra, à n'en plus finir, jusqu'à sa mort. Un siècle plus tard, un autre Polonais tenta de réaliser en Russie une autre utopie. Il s'appelait Félix Dzerjinski, chef de la Tchéka.
Ночкой темной тихо
пойдем,
мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Где рождает поле зарю, ай, брусничный цвет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Ай, брусничный цвет, алый да рассвет, али есть то место.
Donc toujours sur Radio Libertaire, dans Les Muses s'amusent, nous venons d'écouter un quatrième titre de Natacha Nuit de Prince, ça s'appelait « Mon cheval ». Et Jean-Manuel, c'est à toi.
Eh bien, c'est à moi pour vous souhaiter une excellente soirée, une excellente nuit. Nous avons donc parlé de deux livres, l'un extrêmement inattendu, puisqu'il s'agit de l'autobiographie d'un samouraï criminel et minable sous le shogunat Tokugawa. Je rappelle l'auteur, Katsuko Kichi. Le titre, Musui Story, The Autobiography of a Tokugawa Samurai, c'était publié par la University of Arizona Press. Et le deuxième livre dont nous avons parlé, un livre remarquablement écrit, mais absolument terrifiant, par un journaliste polonais appelé Mariusz Wilk ou Mariusz Wilk, Le journal d'un loup, paru aux éditions Libretto, et ça a parlé des stupéfiantes îles Solovki. Donc, merci Nicolas, et comme tous les premiers lundis du mois, nous aurons les Muses s'amusent, et les troisièmes lundis du mois, nous aurons le Proton se rebiffe. Ouah ! Les Muses s'amusent. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Thank you.
La rue, c'est une pépé kebat kebat. Allez, y en a pas de comme elle pour se traîner. La rue, c'est une traînée de savate savate. Allez, plus on y va et plus on veut y aller. La rue, c'est un quinquet qui fait, voyez, qui fait de l'œil à ceux qui veulent s'y regarder. Et sur son ventre doux, quand je m'y appuie, elle plie en dessous comme une souris qui s'étalerait. Et dans son lit, qui vous dirait, chez moi, la rue est un côté, mais des amours se sont quittés. Et des badauds les ont regardés. Chez moi, la rue, des bras trop lourds brisés, des mains tendues sont fermées. Et pas un mec pour s'en mêler. Chez moi, la rue, quand c'est sapé, c'est battre, c'est battre. Allez, y'en a pas de comme elle pour vous doubler. La rue, quand c'est bourré de savate, savate. Allez, y'a plus qu'à se laisser gentiment couler. La rue, quand c'est comblé, ça fait, hey, ça fait beau, c'est ceux de la marée chaussée. Et sur son ventre doux, quand on y appuie, elle plie en dessous comme une souris qui détalerait. Et sans un cri, vous engueulerez. La rue, c'est de la clochon, c'est de la sauvette sauvée. Et les badauds les ont regardés. Chez moi, la rue, c'est de la dernière, ont défilé. C'est de la prochaine, ont filé. Sans un mec pour les rencarder. Chez moi, la rue, c'est une pépé kebat kebat. Allez, y'en a pas deux comme elle pour roupiller. La rue, c'est une flopée de savate savate. Allez, plus on y va et plus on veut y aller. La rue, c'est une entrée qui fait entrée, qui fait complet comme les entrées en vrai. Et sur son ventre doux, quand vient la nuit, elle plie en dessous comme une souris qu'a tout donné et qui pardi va se requinquer. Soleil, rideau, la lune tamise dans son tableau, histoire de Bretondeau. Bonsoir, la rue, la nuit, c'est fait pour les tapins, mais les tapins, c'est pas des chiens. Et puis les chiens, c'est tes copains à toi. La rue, c'est battre, c'est battre, c'est battre, c'est battre, c'est battre, c'est battre, c'est battre. C'est bad.
Libertaire 89 ou 89.4, comme on dit en Suisse.
Radio Libertaria 89.4 FM, Radio de la Fédération Anarchiste.
Slušajte Slobodarski radio na 89,4 Radio Bez Boga i Gospodara.
Radio Libertaria 89,4 FM.
Radio Libertaire 89.4, The Radio Without God or Master.
Slušajte Slobodarski radio na 89,4 Radio Bez Boga i Gospodara.
Radio Libertaria, o Radio Liberté, 89.4 FM.
Slušajte Slobodarski radio na 89,4 FM, Radio Bez Boga i Bez Gospodara.
Radio Libertaria, 89,4 FM.
Radio Libertaria, 89.4 FM.
Radio Libertaria, 89.4.
Radio Libertaria, 89.4 FM.
Radio Libertaria,
89.4.
Radio Tahariri, 89.4.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité.
Ça commence à me faire chier.
Je suis allé voir danser les jeunes filles toutes nues, parce que dans la rue il faisait tellement froid. Toutes les dernières que j'avais aperçues avaient l'air emballées comme dans des matelas. Et c'est la première danse de Jennifer Turcotte sur une très belle toune de Céline Dion. Elle enlève d'abord joliment sa culotte, et j'attends Rock voisine pour y voir les totons. À la table à côté, trois jeunes boutonneux ont invité Suzy Meloche de Jonquière. Et là, de beaux seins blancs tout ronds au milieu, qu'elle caresse en riant, puis montre son derrière. Je suis allé voir danser les jeunes filles toutes nues, parce que j'arrivais plus à penser à toi. Trop longtemps sans en voir, j'ai peur qu'on s'habitue, qu'on oublie les usages ou le mode d'emploi. On applaudit messieurs la jeune Natacha, on peut l'inviter pour une danse à Saint-Piaz. Natacha de Thibaudot de Rouen-Oranda. On applaudit messieurs la jeunesse et la classe. Sur un signe elle vient sans un sourire moqueur. Elle est tellement lisse et son maillot si blanc qu'on s'ennuie quand il glisse, elle n'a aucune odeur. Son sourire est trop sain pour être bien troublant. Je suis allé voir danser les jeunes filles toutes nues, c'est vraiment pas quelque chose que je pourrais faire chez moi. La bière est pas très chère, l'ambiance est détendue, mais c'est pas là qu'on croise le plus de rabat-joie. J'ai invité Sandra Touchette de Saint-Camille, un maillot léopard sur un corps presque rond. Elle dit qu'elle étudie la musicologie, comme un idiot j'avoue que je fais des chansons. Elle approuve en passant ses cheveux sur ses seins, mon nom ne lui dit rien mais elle dit en tournant qu'elle aime Michel Rivard et Richard Desjardins, puis on fait semblant que c'est intéressant. Je suis allé voir danser les jeunes filles toutes nues, parce que dans mes os j'avais tellement froid. L'enseigne au nez, on traversait la rue, je suis devenu tout pâle et rentré tout droit. Et c'est la troisième danse de Debbie Gagnon, toute nue sur le tapis, elle fait un peu semblant devant six militaires venus en permission de se sentir toute seule et de s'aimer vraiment. Ces beaux soldats vont-ils partir pour la Bosnie? Est-ce qu'ils doivent y rester? Est-ce qu'ils n'ont pas raison d'aller goûter encore ce sourire de la vie, de la chair à saucisse à la chair à canon? Je suis allé voir danser les jeunes filles toutes nues, elles sont un peu trop clean et trop jolies pour moi. Je resterai pourtant leur victime assidue, je les aime en cachette et puis chacun sa croix. Je suis allé voir danser les jeunes filles toutes nues, je les aime en cachette et puis chacun sa croix. Je suis allé voir danser les jeunes filles toutes nues.
Ça vaut le coup de vivre sa vie. allé bras dessous dans le quartier où il y a des vitrines remplies de présence féminine qu'on veut se payer quand on est sous. Et voilà que tout au bout de la rue est arrivé un limonet avec un vieil air du tonnerre à vous faire chialer tant et plus. Si bien que tous les gars de la bande se sont perdus,
se sont perdus,
se sont perdus,
se sont perdus,
comme à Ostend
et comme partout,
quand sur la ville
on tombe
la pluie, et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup vivre sa vie. Se sont perdus,
se sont perdus,
se sont perdus,
se sont perdus,
comme à Ostend et comme partout.
J'en aurais piétiné des estrades ou des scènes de haute tenue, sous les feux de couleurs en cascade et devant des amis inconnus. J'en aurais tourné des chansonnettes pour éclairer de tristes matins et crier des angoisses secrètes que chacune rejette ou retient. Fatigué des estrades, j'en aurais délivré des chansons, j'en aurais maquillé des détresses, des grimaces dans mon baluchon. La détresse par un grand sourire et du lilas.